Bonjour à chacun. On m'a demandé de me présenter. Bon. Mon nom, Daniel Arnold. Voilà. Marié, heureux d'être marié avec mon épouse qui m'accompagne depuis plus de 50 ans. Et puis, j'ai enseigné pendant la plus grande partie de ma vie professionnelle à l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs. J'ai enseigné la Bible, la doctrine, l'éthique, même le grec. Voilà, j'ai fait tout ça avec beaucoup de joie et de passion. J'ai une passion pour la Bible le jour où je me suis converti à 22 ans. Je ne connaissais rien. Je savais qu'il y avait un Ancien et un Nouveau Testament, c'était tout. Mais quand j'ai rencontré Dieu, il y avait une soif de le connaître, pour savoir mais qui est ce Dieu qui s'était révélé à moi et qui m'avait transformé de fond en comble, avec une espérance, un amour pour les autres que je n'avais jamais avant. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai lu avec passion la Bible. J'ai profité de devoir enseigner pour creuser encore la parole. Et cela, j'ai fait jusqu'à l'âge de la retraite. Et bien sûr, que vous savez, en tant que chrétien, la retraite, ça n'existe pas, puisqu'on est témoin jusqu'au dernier souffle de notre vie. Et donc, j'ai eu l'occasion de continuer à enseigner. Je suis allé souvent dans différents pays, très souvent en Afrique, une vingtaine de fois je suis allé en Afrique pour enseigner les pasteurs, les étudiants en théologie là-bas. Et puis, un autre aspect de mon ministère, c'est que j'ai commencé par écrire, par écrire des commentaires bibliques. Voilà. Et le dernier commentaire que j'ai écrit, j'en ai apporté quelques-uns qui sont à l'extérieur, c'est le commentaire sur Matthieu, voilà, qui s'intitule « L'évangile royal », parce que c'est en lien avec la particularité de l'évangile de Matthieu. Alors, tout allait bien, et un peu plus de 3 ans, tout s'est arrêté. Bloc, crise cardiaque sévère. J'ai été hospitalisé pendant 5 mois, 1 mois dans le coma, et puis j'en suis sorti vivant. Je remercie tous ceux qui ont prié pour moi. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, le cardiologue m'a dit, quand même, votre condition est assez difficile, votre cœur est très abîmé, nécrosé en partie. Donc, on vous propose de vous mettre, non pas faire une transplantation cardiaque, j'étais trop vieux pour ça, mais une machine. Donc, ils m'ont mis un LVAD, c'est une pompe que je porte en moi, qui turbine en fait, qui tourne à 5000 tours par minute, ça tourne assez vite, et cette turbine est alimentée par des batteries que je porte dans une petite sacoche, et il y a un petit ordinateur, donc partout où je vais, j'ai ma petite sacoche avec moi, et la nuit, je me débranche de ces batteries, je me branche sur le secteur, j'ai un câble, et j'ai 8 mètres de liberté pour aller du lit jusqu'aux toilettes s'il le faut, et le matin, je me branche de nouveau sur mes batteries. Voilà ma nouvelle vie. Alors, ça veut dire que certaines opportunités, certains ministères, chut, se sont fermés tout de suite. Parce que voilà, je suis un petit peu limité dans mes déplacements. Alors l'Afrique, c'est exclu, je ne peux plus y aller. Mais je peux venir quand même jusqu'à Genève. Je peux aller en France, s'il le faut. Et puis je peux continuer à écrire. Puis parfois, il y a d'autres portes qui s'ouvrent, quand certaines se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Alors, de manière étonnante, ben, il y a quelques portes qui se sont ouvertes auprès du personnel médical. Ben oui, parce que j'y vais quand même souvent, je vais aller voir une fois par mois, vers le cardiologue, les infirmières qui sont là. J'ai été invité à 2 reprises pour un symposium en cardiologie et puis en congrès, tout ça. Pour faire quoi? On m'a présenté comme un trophée, hein, quelque part. Vous voyez, il était presque mort, et pourtant, il est de nouveau là, et il fonctionne. Alors, vraiment, ça encourage, bien sûr, les médecins, parce que souvent, ben voilà, parfois, les résultats ne sont pas aussi encourageants, mais là, voilà, quelqu'un qui fonctionne, etc. Donc, c'était l'occasion pour témoigner. J'ai dit, mais oui, puis témoigner, bien sûr que... quand même ce qui m'a fait fonctionner, c'est pas juste la machine, c'est pas juste les soins médicaux, mais c'est aussi ce qui me fait vivre au fond de moi, c'est-à-dire l'espérance que j'ai en Jésus-Christ. Et parfois, quand on est diminué, parfois, les choses qu'on disait avant, d'un coup, elles ont une autre résonance, parce qu'on peut continuer à vivre et on peut continuer à témoigner, quel que soit notre état physique. Et quand j'étais au fond du trou, quand j'étais, je me demandais, est-ce que je pourrais encore vivre, est-ce que je pourrais encore faire quelque chose? Est-ce que je pourrais une fois donner un message, témoigner? J'ai réalisé que il y a deux vocations que Dieu m'a données, deux vocations, que je peux continuer à faire tout le temps, quelle que soit ma condition. Au fond d'un lit, debout, je peux continuer à avoir ces deux vocations. Et c'est quoi ces deux vocations? Aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Et d'aimer mon prochain comme toi-même. Et ça, je peux le faire tout le temps. Ah oui, parce que aimer Dieu, le louer, ben oui, en offrant du lit, alléluia Seigneur, je suis encore conscient, alléluia. Et en fait, maintenant, souvent, quand je chante, quand je viens en culte, il y a des cantiques, parfois, c'était rarement qu'avant, j'ai quelques larmes qui coulent. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Ah, mais c'est formidable. Je le savais déjà avant, mais je le sais encore mieux maintenant. Et puis, aimer son prochain, ben oui, on peut aimer son prochain, où qu'on soit. Et donc, voilà, on peut continuer à faire cela. Donc, voilà, un trophée, d'accord, ça ne me gêne pas. Aussi un trophée à la gloire de Dieu qui m'a permis de vivre, de continuer à fonctionner et puis même à écrire encore des commentaires. Alors j'avais presque terminé mon commentaire sur Jean avant que j'aie cette crise cardiaque et puis quand je suis sorti du coma, je me suis dit non, je ne veux pas mourir maintenant, il faut que je termine ce commentaire. Et puis je voulais aussi rester avec ma femme bien sûr et puis encore d'autres personnes. Et puis après, une fois que j'ai fini l'évangile de Jean, je me suis dit, non, mais il y a encore un autre projet, c'est l'évangile de Matthieu. Ben voilà, l'évangile de Matthieu, il est sorti il y a 15 jours. Et puis, bon, Marc, j'avais déjà écrit un commentaire sur Marc il y a une vingtaine d'années à peu près. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? L'évangile de Luc. Voilà, donc si Dieu me donne la force, je ne sais pas combien de temps il me donnera la force. Je sais que la vie est quand même fragile, je suis fragile. Et peut-être que je n'arriverai pas au bout, mais allons-y, allons de l'avant, continuons à étudier, à communiquer, à travailler, à étudier la parole. Voilà, ça c'est mon témoignage. Alors, ce matin, je me suis dit, je vais prendre quelque chose de l'évangile de Matthieu. Et puis, il y a beaucoup de choses. Dans les évangiles, on a des paroles de Jésus, on a des enseignements, on a des miracles qu'il a effectués, des rencontres qu'il a faites, etc. Mais aussi, Jésus, il aimait parler en parabole. Parabole, ça c'est quelque chose qui caractérise Jésus, raconter des histoires. Alors une histoire, c'est passe-partout, parce que vous n'avez pas besoin d'être éduqué pour écouter des histoires. Et les histoires qu'on a dans les évangiles, les paraboles, sont toujours très près de la réalité des hommes. On ne parle pas d'ordinateur, à l'époque les ordinateurs n'existaient pas, mais peut-être que si les ordinateurs existaient à cette époque-là, Jésus aurait aussi parlé des ordinateurs, je ne sais pas. Mais souvent, dans les paraboles que Jésus prend, on parle de travail agricole, on parle des semeurs qui sèment des graines, etc. Bon, sans être un agriculteur, on peut quand même comprendre la parabole. Ben oui, le semeur sème des graines et puis, ma foi, certaines sont mangées par les oiseaux, etc. Enfin, vous connaissez ces paraboles. Alors, dans notre Église, on a, depuis un certain temps, commencé à étudier des paraboles, les prédicateurs d'apprécier des paraboles. Et puis, les paraboles agriculture, c'est bien, mais je me dis, je viens à Genève. Donc, ce n'est pas un milieu paysan. Je me suis dit, mais il y a des paraboles qui parlent de l'argent. Ah, ben oui, alors Genève, je me suis dit, je vais parler d'une parabole qui parle de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de paraboles qui parlent de l'argent. Jésus a souvent utilisé l'argent comme illustration pour parler des choses plus profondes. C'est vrai pour les paraboles agricoles, pour les semences qui sont semées, c'est la parole de Dieu. Et puis, des paraboles qui parlent de finances, eh bien, elles sont aussi là, à quelque part, pour nous dire quelque chose de profond sur la vie spirituelle. Mais parfois, quand on veut dire quelque chose de difficile, c'est bien de passer de manière un petit peu indirecte, de parler par une parabole, par une image. Alors, quelle parabole est-ce que je vais prendre ce matin ? Eh bien, je pourrais prendre quelque chose qui parle de la haute finance. Alors, peut-être parmi vous, il y a des banquiers qui gèrent des millions, voire plus, chaque semaine. Mais je vais vous parler du salaire. Ah ouais, alors là vous dites, ça me concerne, le salaire. Et la question c'est, qu'est-ce que c'est qu'un salaire juste ? Alors là, chacun a ses idées, alors je ne vais pas vous donner la parole maintenant. On va étudier la parole de Dieu pour voir ce que c'est qu'un salaire juste. Alors on va lire cette parabole, elle se trouve dans Matthieu chapitre 20. Et puis, je vous dis que c'est Jésus qui a raconté la parabole. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Parce que si je l'avais inventée, vous seriez tout de suite en train de dire que j'ai tort. Et puis que c'est Jésus qui annonce ça, vous devez dire c'est vrai, il a raison. Parce qu'il y a des choses surprenantes dans cette parabole. Alors, nous lisons dans Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher les ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent, il sortit de nouveau à la sixième heure, puis vers la neuvième heure, et il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous là, ici, toute la journée, sans rien faire ?» Ils lui dirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. Allez, vous aussi, dans la vigne, leur dit-il. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Mais ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à égal de nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Il répondit et leur dit, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Voilà. Alors, intéressant. Je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à cette parabole. Je pense qu'une première réaction, on dit, mais c'est injuste. On comprend ceux qui ont été engagés au début de la journée et qui reçoivent finalement la même chose que les derniers. C'est quand même, à quelque part, c'est injuste tout ça. Après, dans une parabole comme celle-ci, il y a des choses qui sont dites et des choses qui ne sont pas dites. Toujours intéressant de se dire, mais qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit ? Parce que si vous entendez quelqu'un parler, vous pourriez être prompt à juger et à condamner. Mais est-ce que vous avez bien compris le contexte ? Est-ce que vous avez bien compris tous les détails et la situation précise ? Alors ici, on nous parle des différentes heures. De la troisième heure, de la sixième heure, de la neuvième heure, de la onzième heure. Alors, les heures sont comptées d'après le début de la journée. Quand le soleil se lève, ben voilà, c'est le début de la journée. Après la troisième heure, ça correspond en général à 9 heures du matin. Après la sixième, c'est midi, etc. La onzième heure, c'est juste avant que le soleil se couche. Donc la journée en général séparée en 12 heures. Donc juste pour que vous puissiez quand même connaître un tout petit peu le contexte. Et puis ici, quand il est dit un denier, il reçoit un denier. Alors un denier, c'est une pièce de monnaie qui correspondait au salaire normal pour un jour de travail. Alors je ne vais pas dire que c'est le salaire minimum, parce que on ne parle pas de salaire minimum ici, on parle simplement, c'est le salaire normal qu'on donne à un ouvrier, c'est un denier. Donc voilà, pour qu'on puisse un petit peu comprendre ce qui se passe ici. Maintenant, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas dites dans cette parabole. Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais il donne comme ça un denier ici, un denier là, il est riche, il est généreux, il est riche, il donne plus que... Mais il aurait pu donner plus aussi aux autres. Il est un peu pingre, cet homme qui est là. Et on ne nous dit pas si l'homme était riche ou pas. Il était propriétaire, il avait une vigne, il avait du travail. Peut-être qu'il a autant que vous en compte en banque. Peut-être moins, peut-être beaucoup plus. On ne sait pas la richesse. Ça ne dépend pas de la richesse ici. Parce qu'en général, quand on parle de générosité, de salaire, on dit toujours « Ah, mais le patron, il doit nous donner de l'argent, et quand même, il gagne tellement d'argent. Ce n'est pas juste qu'on ait que 100 000 francs par année. » C'est déjà pas mal. Mais on veut toujours plus. On se dit « Mais ils sont riches, il faut qu'ils partagent leurs bénéfices. Ce n'est pas juste quand ils ne le font pas. » Mais là, on ne sait pas quelle est la fortune de cet homme. Il est là. Et une autre chose qu'on ne sait pas dans cette parabole, c'est pourquoi il engage certaines personnes à 9h du matin ou à 6h du matin et d'autres plus tard. Pourquoi est-ce que certains n'ont rien fait ? Oh, ben les paresseux, vous savez, c'est les gens là qui se croisent les bras, qui font rien, et puis après ils sont payés comme les autres. C'est pas juste. Mais on ne sait pas pourquoi certains ont été engagés rapidement et d'autres tardivement. La seule chose qu'on nous dit, c'est les derniers qui s'engageaient, ils disent « Pourquoi vous ne travaillez pas ?» Personne ne nous a engagés. Donc on était au chômage, on aurait voulu travailler, mais il n'y avait pas de travail. Donc les gens qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail, eh ben, la condition est difficile. La condition est difficile parce que leurs besoins, ils sont les mêmes que ceux qui ont déjà un travail. S'ils sont mariés, s'ils ont une famille, mais il faut quand même qu'ils puissent nourrir leur famille. Donc ce propriétaire, il va donner ce qui est nécessaire pour la vie à chacun. Donc c'est là que se situe sa générosité. Et puis, dans la parabole, c'est intéressant de voir aussi comment elle est racontée, cette parabole. Parce qu'on aurait pu la raconter autrement. On aurait pu prendre la même histoire en disant, ben voilà, le propriétaire, il engage, de la vigne, il engage les premiers pour un denier, etc. Voilà. Et puis ensuite, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les premiers venaient ici, alors, on avait dit combien? Un denier, voilà votre denier. Bon, ouais, vous pouvez partir, vous pouvez partir. Puis après, il appelle les autres. Puis il leur donne aussi un denier. Et après, il appelle les autres. Mais vous voyez, il ne faut pas que les autres, il ne faut pas que les premiers le sachent. Alors là, ça passerait sans problème. Mais là, c'est juste l'inverse qui se passe. C'est qu'il commence par payer les derniers, un denier. Alors les premiers se disent, oh là 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 là, il est généreux. Et après, ben non, ben, il est injuste, il est injuste. Et le maître dit, mais on avait convenu quoi? On avait convenu un denier, vous étiez d'accord et je vous l'ai donné. Donc cette parabole nous parle de la droiture, de la justice et de la grâce. La droiture, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une promesse, on doit la tenir. Et si je fais une promesse et je ne la tiens pas, c'est injuste. Si je vous dis, écoutez, venez, je vous embauche, vous travaillez chez moi, à la maison, il y a du travail toujours à faire, je parle de ménage ou autre chose, venez faire du travail, je vous donne 100 francs pour la journée. Alors vous venez, bon, commencez à travailler, À la fin de la journée, non, mais 100 francs, j'ai mal calculé, j'ai pas autant d'argent. Et puis quand même, là, vous avez pris un petit peu de pause pour le café. Et puis là, ben, vous attendiez que l'aspirateur soit disponible. Non, mais là, je vous donne 50 francs. Ah non, ben, vous n'êtes pas content. On nous a pris pour 100 francs et maintenant on paye 50 francs. C'est pas juste. Quand vous faites une promesse, vous devez la tenir. Si je vous dis, écoutez, venez travailler chez moi, travaillez pour la journée, et je vous donne 10 000 francs. Ah ben ouais, ça c'est bien. Ah oui, là vous venez tous venir. Et à la fin de la journée, je vous dis, ah ben non, mais 10 000 francs c'est trop. Je vous donne 8 000 francs. Ah non, vous nous avez dit 10 000, maintenant c'est 8 000. Vous voyez, la parole doit être tenue, que vous dites. Et Dieu, il est la parole, il est vérité. Quand il dit quelque chose, eh bien, il le fait. On peut compter sur ses promesses parce que Dieu est vrai et Dieu tient ses promesses. Maintenant, on peut se poser la question, c'est quoi les promesses que Dieu fait? Alors, des fois, on peut s'imaginer que Dieu a dit qu'il allait faire ça, puis on s'est trompé. C'est intéressant parce que dans l'histoire, les premiers, ils savent qu'en travaillant toute la journée, ils reçoivent un denier, puis ceux qui viennent en deuxième, il leur dit, travaillez et je vous donnerai ce qui est juste. Il ne dit pas le montant, il dit ce qui est juste. Vous devez me faire confiance, je vous donnerai ce qui est juste. Et à quelque part, ceux qui sont engagés après vont travailler et doivent faire confiance à celui qui les a engagés, non pas pour un montant déterminé, mais simplement parce qu'il est, il est droit, il est bon, il est juste. Et il va nous donner ce qui correspond au travail effectué. Donc cette question, il y a cette question de justice. Il faut être juste, c'est tenir sa parole. Ça, c'est un des thèmes qui ressort ici. Et l'autre thème qui ressort, c'est la grâce. C'est la grâce. Parce qu'il est quand même généreux. Il donne à chacun ce qui est nécessaire pour la vie. Alors, la conclusion, c'est est-ce que je ne peux pas faire ce que je veux avec les biens que j'ai? Si maintenant je vous dis, ouais, bon, est-ce que certains des problèmes financiers, bon, levez pas la main s'il vous plaît, mais enfin, voilà, est-ce que certains des problèmes financiers, puis j'ai dit, ah oui, voilà, il a un problème financier, allez, je lui donne 10 francs. Bon, on peut continuer. Puis on dit, mais attends, il n'est pas le seul. Puis je dis, bon, d'accord. Ah ben, il y en a un deuxième ici. Je lui donne 100 francs. Le premier qui avait 10 francs, il dit, c'était pas mal, mais pourquoi j'ai pas 100 francs? Et on est très vite prêt à se comparer les uns les autres. Et puis, il y a un petit peu de jalousie, quand même, hein, parce qu'on aimerait être les premiers. On aimerait être ceux qui sont honorés. Non, je ne suis pas obligé de vous donner de l'argent. J'ai promis à personne de donner de l'argent. Je peux faire ce que je veux avec les biens que j'ai. Hein? C'est le principe même du cadeau, de la grâce de l'offrande. Si vous avez un enfant, 6 ans, je vais lui offrir une bicyclette. Vous avez le droit. C'est votre enfant, c'est votre argent. Mais maintenant, on offre une bicyclette à votre enfant, est-ce que vous devez offrir une bicyclette à tous les enfants du quartier? À tous les enfants du canton de Genève? Ou de la Suisse? Non, vous pouvez choisir, vous êtes libre. C'est votre argent, c'est votre bien. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec ce que vous avez. Libre par rapport aux autres. Alors ce propriétaire, il est libre, il dit, je suis libre de le faire, mais en même temps, il y a un autre principe qui est là derrière, c'est le principe de la grâce, de l'amour, de la générosité. On va donner à ceux qui, à quelque part, le méritent quand même. Parce que tous les ouvriers ici, ils travaillent. Il ne va pas récompenser les paresseux. Tu ne travailles pas, ben, tu ne manges pas. Ben ouais, c'est normal, tu ne veux pas travailler. Mais s'il dit, mais j'aimerais travailler, mais je n'ai pas de travail, c'est différent. J'aimerais travailler, mais je ne peux pas parce que je suis handicapé. Voilà, c'est encore différent. Donc, on ne va pas récompenser la paresse, mais on va répondre en fonction des besoins de chacun. Bon, ça, c'est les principes spirituels qui sont là. Mais ça, pourquoi, comment appliquer ça à notre vie, à notre relation avec Dieu? Ce que vous avez, tout ce que vous avez, vous ne l'avez pas mérité. Mais non. Ah, mais oui, vous avez une belle montre Rolex. Hein, vous dites, j'ai travaillé, j'ai pu m'acheter une montre Rolex, c'est pas la mienne. Mais enfin, voilà, vous avez une montre, vous la méritez. Non, vous ne la méritez pas fondamentalement. Vous avez travaillé, d'accord. Mais qui vous a donné la force pour travailler? Qui vous a donné l'occasion de pouvoir travailler? Qui vous a permis d'avoir une éducation pour pouvoir travailler? Tout ce que vous avez, vous a été donné gratuitement par le Seigneur. Tout est grâce. Et cette grâce, elle se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Il y a un qui a sa Rolex et l'autre qui ne l'a pas. Ben voilà, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème que l'un est intelligent et l'autre moins intelligent. Parce qu'il y a des gens qui sont doués de naissance, sont très doués. Pour les mathématiques, génial. Les autres, mathématiques, non, ce n'est pas, c'est pas mon truc. Et peut-être qu'ils sont doués en orthographe, ou peut-être doués dans le chant, ou doués sur le plan physique, ils sont sportifs, ils sont aux Jeux Olympiques. Et quand on se regarde les uns les autres, vous trouverez toujours un motif d'être jaloux d'un autre. Parce qu'on est différents les uns des autres. Et on a tous envie d'avoir plus que l'autre. J'aimerais être plus riche, plus intelligent, en meilleure santé, avoir une épouse, avoir des amis. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et ça, c'est... Il faut partir de cette base de notre relation avec Dieu. Parce que le titre que je voulais donner à ma prédication, c'est « Qu'attendez-vous de Dieu ? » Qu'est-ce que vous attendez de Dieu ? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu quand vous êtes pauvre ? Ah ben c'est de ne plus être pauvre. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu quand vous êtes malade ? Mais c'est de ne plus être malade. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu ? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de Dieu ? Qu'est-ce que, à quelque part, qu'est-ce qu'il me doit ? Qu'est-ce que Dieu me doit ? Dieu vous doit rien du tout. Rien. Rien. Vous ne méritez rien. Mais il donne les choses par sa grâce. Et quand vous l'avez, vous le remerciez. Alors, l'histoire de Job est intéressante, parce que là, on a un homme riche. Tout lui a réussi. Il avait une famille, des enfants, de nombreux biens. Et voilà que, tout à coup, il perd. Il perd tout. Et qu'est-ce que Job dit ? Dieu a donné, Dieu a repris, loué soit l'Éternel. Waouh ! Ça, c'est la reconnaissance. Dieu est Dieu, il est souverain. Je ne peux pas maintenant réclamer quelque chose de lui. J'ai dit... Il y a un peu plus de 3 ans, j'ai eu cet accident cardiaque. Paf! Bon, un mois dans le coma, c'était facile pour moi, pas pour mon épouse, mais enfin voilà, je ne savais pas, j'étais loin. Puis après, quand j'ai repris vie, je me dis, ben voilà, j'ai dû réapprendre, tout réapprendre à ce que mes doigts fonctionnent, à me tenir au bord du lit, assis, à me tenir debout, à faire les premiers pas. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont parties rapidement. Et puis, bien sûr, je me suis dit, oui, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Je suis comme un bon chrétien. Pourquoi moi ? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi moi ? Pourquoi ? C'est comme ça. Mais Dieu est avec toi. Dieu, il t'aime. Tu peux continuer à accomplir les vocations qu'il t'a données, d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça n'a pas diminué d'un iota, on dirait, d'un rien. Tu peux continuer à aimer Dieu. Tu peux continuer à aimer tes prochains. Peut-être que ce sera d'autres prochains, mais tu peux continuer à l'aimer. Donc, on se rattache à l'essentiel. Parce que Dieu a donné, Dieu a repris. Et parfois, ben, Dieu redonne, mais différemment. Il y a d'autres portes qui se sont ouvertes. Voilà. Auprès de certains médecins. Ben voilà. Donc, on peut continuer à être un témoin là où il nous a placés. Donc, toute la vie, on est appelé à avoir cette attitude par rapport à Dieu. Il donne, avec grâce, mais comme il le veut. Et quand on est chrétien, quand je suis devenu chrétien à 22 ans, je me suis dit, mais pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je suis chrétien ? Pourquoi est-ce que Dieu m'a pris et m'a donné la foi ? Alors que tellement autour de moi ne sont vivent dans l'incrédulité. Pourquoi moi ? Je n'étais pas meilleur, comme les autres, mais par sa grâce. Et je ne comprends pas. Tout ce que je peux dire, c'est par sa grâce. Et je ne peux que dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Alors parfois, les gens qui ont beaucoup reçu, quand ils perdent quelque chose, sont un peu moins contents, ou quand les autres reçoivent autant, ça pose un peu des problèmes. Les Juifs en particulier, du temps de Jésus, ils se disaient, nous sommes le peuple élu. On est quand même privilégiés. Et c'est vrai qu'ils étaient privilégiés. Dieu s'est révélé à notre nation depuis des millénaires, il est là, on a tout connu, on a la loi de Dieu, on a sa bénédiction, nous sommes le peuple élu. Et quand Jésus est venu, et tout à coup il accueille d'autres personnes, sa grâce étant à d'autres personnes, aux païens, aux péagers, aux pêcheurs, il dit mais pourquoi ? Et pourquoi est-ce qu'ils reçoivent autant que nous ? Ils réagissent exactement de la même manière. C'est pas juste. Mais les Juifs, ils ne méritent rien. Nous ne méritons rien. Ils ont été choisis. Nous sommes choisis maintenant. Mais tout est une question de grâce. Et les Juifs, ils ont eu beaucoup de peine à accepter ça. Et Jésus leur dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. On peut se réjouir de la grâce qui est faite. Et si maintenant le peuple juif, dans sa majorité, est hostile à Dieu, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Sauveur, un jour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, Dieu va se révéler à eux. Il y aura une conversion massive, parce que c'est sa grâce, parce que Dieu le veut ainsi. Donc, du début jusqu'à la fin, tout est grâce. Bon, je pourrais m'arrêter là, parce que voilà, qu'attendons-nous de Dieu ? Eh bien, on ne peut que s'en remettre à sa miséricorde. Seigneur, je suis malade, donne-moi la grâce de traverser cette difficulté. J'ai perdu mon travail, donne-moi la grâce de vivre cette épreuve. Je suis rejeté par mes amis, donne-moi la grâce de traverser cette épreuve. Qu'est-ce qu'on attend de lui ? On attend la miséricorde. Et peut-être qu'il nous donne. Quelles sont les promesses que Jésus fait ? Quelles sont les promesses ? Qu'on aura la vie éternelle. Il ne nous promet pas qu'on aura des millions aujourd'hui. Il ne promet pas ça. Il ne promet pas qu'on aura une Ferrari. Qu'on aura un vélo. Il ne promet même pas qu'on aura des souliers. Il dit « Priez pour le pain quotidien ». Et là, il le donne. Il donne le pain quotidien. Ça ne veut pas dire que j'ai le pain quotidien pour aujourd'hui. Mais peut-être que je ne sais pas pour demain. Mais aujourd'hui, oui, il va t'assister. Tu l'aimes, tu es avec toi, il veille avec toi, il est tous les jours avec toi. Bon, qu'est-ce qu'on attend de Dieu ? Maintenant, on pourrait poser la question, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous ? C'est intéressant aussi comme question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Parce qu'il attend aussi des choses. Alors, juste avant cette parabole des ouvriers embauchés à différentes heures. Toujours intéressant de voir le contexte. Et avant, juste avant cette parabole, il y a une histoire que vous connaissez bien. C'est l'histoire d'un jeune homme riche qui vient vers Jésus. Alors, il est jeune, on ne sait pas quel âge il a, 18 ans, 20 ans, 22 ans. Enfin, il est jeune, il est riche, on ne sait pas quel est le montant de sa fortune, mais enfin, il est riche, il est jeune et il est riche. Il est attaché à Dieu. Il dit, j'ai suivi Dieu, les prescriptions depuis tout petit. Combien d'entre vous avez suivi les prescriptions depuis tout petit que vos parents vous ont données, vous êtes allés à l'école du dimanche, et toujours vous avez fait ce qui est juste et droit. Ils ne sont pas très nombreux, mais enfin, lui, il est comme ça. Donc, quand même, un homme qui est droit, qui est juste, qui est bien, etc. Et qui dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui dit, mais tu connais le commandement? Mais j'ai déjà tout fait. Mais qu'est-ce que je dois encore faire? Est-ce qu'il me manque encore quelque chose? Et Jésus lui dit, va, vends tous tes biens et donne-les aux pauvres. Ah! Et c'est le coup de massue! Non mais quand même! Non mais là, il exagère. Il me demande de vendre tous les biens. Quelqu'un d'entre vous a vendu tous ses biens? Donc, on ne va pas critiquer trop vite ce jeune homme riche. Jésus a adressé cette parole à cette personne. Remarquez qu'il est jeune. C'est important. On ne sait pas s'il est marié ou pas, mais peut-être qu'il n'est pas marié, parce que c'est plus difficile de donner tous ses biens et de suivre Jésus quand on a une famille, une épouse et 5 enfants à la maison. Oh, débrouillez-vous, hein. Moi je suis Jésus. C'est pas l'amour, ça. Donc on peut parfois s'engager comme ça, jeune, et aller à l'aventure. C'est pas une aventure totale, c'est vrai qu'il n'y a plus de sécurité matérielle, mais on suit Jésus. C'est lui notre sécurité. C'est lui qui va pourvoir au jour le jour, selon les besoins de ce qui va se passer. Et c'est vrai que les disciples, ils ont toujours eu assez à manger. En tout cas, tant que Jésus était là, il a pourvu pour le bien. Donc, tout laisser, c'est difficile. Et puis sa fortune, je me dis cette fortune, ce jeune homme riche, pourquoi est-ce qu'il était riche quand il est jeune, hein? Bon, quand vous avez 50 ans et que vous êtes riche, vous dites, j'ai travaillé, j'ai gagné, j'ai mérité, j'ai gagné cet argent. Et quand vous avez 18 ans et que vous êtes riche, bon, vous êtes bien tombé. Hein. Vous êtes né dans une famille riche. Votre papa est riche. Donc, vous avez vécu dans l'abondance depuis tout petit. Et c'est quand même bien de vivre dans la richesse, dans la richesse matérielle. Parce que, ben voilà, avec l'argent, ben, vous pouvez avoir ce que vous voulez. L'ordinateur que vous voulez. Le téléphone que vous voulez. Vous pouvez être généreux envers vos amis, ils vont vous aimer. Avoir des amis, avec de l'argent, vous pouvez tout faire. Vous pouvez acheter des gens, vous pouvez tout faire avec de l'argent. Mais tout à coup, on vous dit, cet argent, plus rien. Tu n'auras plus rien. Tout ce qui t'apportait des satisfactions, tu dois le laisser. Tu dois le donner. Alors c'est intéressant parce que Jésus dit ça, parce que des fois dans les sectes, on dit la même chose dans les sectes, ils disent, vous voulez maintenant suivre notre leader, donnez-lui tout votre argent. Alors ça, c'est des charlatans qui veulent vous déposséder. Mais Jésus dit, donne tout l'argent, tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres. Il ne dit pas maintenant, tout ton argent, mets-le dans la caisse commune. Non, donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Jésus ne va pas s'enrichir d'un sou de ce que ce jeune homme doit donner. Mais les pauvres. Les pauvres. Donc, difficile ici. Et à quelque part, est-ce qu'on peut donner assez à Jésus? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Donne tout, ton argent, tes biens, ton temps. En fait, ce que Jésus demande, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Donne tout et fais-moi confiance. Là, mais je me regardais quand même et puis le contrôle et puis je te fais confiance. Non, donne tout et fais confiance. Ce que Jésus demande, c'est de nous engager, de lui faire confiance. On est sauvé par la foi dans la grâce de Jésus-Christ. C'est lui qui nous dit, fais-moi confiance. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Jésus. Il est bon, il va veiller sur toi. C'est ça notre... Comment est-ce qu'on peut plaire à Jésus? Comment est-ce qu'on peut plaire? Bon, l'offrande est déjà passée trop tard, mais on pourrait se dire avant l'offrande, donnez, 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 vous serez bénis. Mais qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? C'est notre porte-monnaie? Il est millionnaire, il est milliardaire, le monde entier lui appartient. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est notre confiance. C'est qu'on croit dans sa parole. Il s'est révélé, sa parole est là. Il a dit ce qu'il attendait. Il n'a pas tout dit, mais il a dit suffisamment pour qu'on puisse marcher dans ses voies. Il dit maintenant, lis la parole, médite-la, mets-la en pratique. Fais-moi confiance. Ah, mais il y a un passage ici que je ne comprends pas. Pas de problème. Tu n'as pas dit que tu allais tout comprendre. Il te demande d'être obéissant. Et quelqu'un a dit une fois, ce qui est gênant dans la Bible, ce n'est pas les choses que je ne comprends pas, c'est les choses que je comprends. Parce que quand je comprends quelque chose, je dois le mettre en pratique. Et ça, c'est difficile. Donc oui, creusez la parole, aie dans cette parole, priez Seigneur, aide-moi à comprendre encore cette parole. Et quand vous le faites, c'est extraordinaire. Parce qu'année après année après année, vous connaissez mieux le Seigneur. Mois après mois après mois, vous connaissez mieux le Seigneur. Semaine après semaine après semaine, vous connaissez mieux le Seigneur. Jour après jour après jour, vous connaissez mieux le Seigneur. Alors on ne grandit pas comme ça, en une fraction de seconde, ça prend des années pour mûrir dans la foi. Mais c'est une des belles choses avec l'âge, avec la vieillesse, hein. Tout à l'heure, on a chanté le chant « Jeunes et vieux vont se réunir ensemble ». Alors là, alléluia, je suis d'accord avec ça. Puis après, il dit « Les jeunes filles danseront de joie ». Alors je me dis, heureusement, ils ont dit « Les jeunes filles » et pas tout le monde. Parce que moi, je ne me vois pas tellement danser. Donc, on a parfois des qualités, des capacités physiques qui sont diminuées. Mais avec l'âge, on a un petit peu plus de sagesse quand même. Et ça, c'est précieux. Alors, on aimerait avoir les deux. On aimerait être jeune, fit, comme à 20 ans, et avoir la sagesse de ceux qui ont vécu déjà 60 ou 70 ans. Mais non, chacun a sa part, et on peut se réjouir de la sagesse que Dieu nous donne. Je dois terminer encore sur un point. Un point, on a regardé ce qui était le texte qui venait avant. On avait ce texte, la parabole, des ouvriers engagés dans différentes heures. C'est intéressant de voir ce qui vient avant. Ben voilà, c'était l'histoire du jeune homme riche. Lui doit donner, il doit tout donner. Et qu'est-ce qui vient juste après? Intéressant, ceux qui ont une Bible ouverte, ils vont vite regarder. C'est Jésus qui annonce une fois de plus qu'il doit aller à Jérusalem, être arrêté, jugé, rejeté, humilié, crucifié et ressuscité après. Donc Jésus, oui, il demande tout. Il demande au jeune homme riche de tout donner. On pourrait dire, mais c'est énorme, c'est trop. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais Jésus, il donne sa vie. Il va encore plus loin, il donne sa vie. Et pas juste sa vie, mais il accepte de subir le châtiment qui nous était réservé. L'humiliation, le rejet, la souffrance, il accepte de prendre ça pour nous. Alors qu'on n'a pas soulevé le petit doigt, il le fait gratuitement, il l'offre. C'est la générosité. Et cette générosité, pour qu'elle soit efficace, hein, quelque part, elle montre quand même l'engagement. Ce n'est pas ceux qui restent les bras croisés toute la journée qui vont recevoir cette grâce. Il faut s'engager. Et cet engagement, il vient parfois très tôt dans la vie. À 4 ans, Dieu se révèle à vous. À 20 ans, à 40 ans, juste avant la mort, Dieu se révèle à vous. Et même s'il se révèle à vous quelques minutes avant votre mort, le brigand sur la croix qui dit à Jésus, « Mais aie pitié de moi quand tu viens dans ta gloire », Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, Jésus, il donne gratuitement, mais il faut le recevoir. Et comment est-ce qu'on le reçoit ? Par la foi. C'est la foi, la confiance. Je dis, « Seigneur, oui, je crois tes paroles. Je crois que tu es celui qui offre sa vie. Je crois dans ta bonté. Je crois dans l'œuvre que tu as faite. Et je crois que tu m'aimes. » Que Dieu nous aide à vivre dans la reconnaissance profonde pour ce qu'il nous a donné. Qu'il nous aide à utiliser les choses qu'il nous a données pour faire du bien autour de nous. Aime ton prochain comme toi-même. Ben oui, le jeune homme riche, il avait beaucoup d'argent pour aimer son prochain, les aider sur ce plan-là. Utilise les choses que tu as. Tu es bien pour chanter, mais alors profite de chanter, de réjouir les cœurs des autres. Utilise les dons que Dieu t'a donnés. Parfois, voilà, glorieux ou pas, peu importe, ce n'est pas le regard des autres qui est important, c'est le regard que Dieu porte sur vous. Et il n'oublie aucun des bienfaits qui sont là. Nous avons un Dieu merveilleux et nous sommes appelés à lui faire confiance et à le servir. Amen.